Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC, on démarre tout de suite avec l'actualité du jour et c'est la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens. Demain, la mobilisation s'annonçait très suivie, mais le syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel a annoncé la fin des hostilités après un accord avec la direction. Un accord qui intervient juste après l'annonce de gros avantages acquis par les salariés de la SNCF en échange d'un non-blocage durant les ponts du mois de mai. Rémi, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres menaces de grève?
En tout cas, les préavis de grève sont d'ores et déjà déposés pour mettre la pression à la RATP. La CGT a déjà donc déposé un préavis de grève jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Il est en vigueur depuis le 5 février dernier et court jusqu'au 9 septembre prochain. Il peut donc être déclenché à tout moment. Le syndicat demande des augmentations de salaire significatives en mettant l'accent sur l'importance de ses agents pour la réussite de ces fameux JO. Autre préavis toujours émanant de la CGT, cette fois déposé pour l'ensemble de la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière. Il court du 15 avril au 15 septembre. Chez les pompiers, cette fois, c'est le syndicat Sud Solidaire qui a déposé un préavis de grève sur toute la période des Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août prochain. Il ne concerne pas les pompiers de Paris et de Marseille, qui sont des militaires et qui ne sont donc pas syndiqués. Mmh. Mais en revanche, les pompiers, par exemple des départements du Nord, de la Gironde ou encore de Loire-Atlantique, où se dérouleront certaines épreuves des JO, auront la possibilité de faire grève. Enfin, les policiers municipaux en grève lors de Noël et du Nouvel An dernier, à l'appel du collectif Policiers municipaux en colère, pourraient aussi reconduire leur mouvement à l'aube des Jeux Olympiques. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires. On l'a compris, c'est comme là ce qui se passe avec les contrôleurs aériens, mm-hmm. comme ce qu'il devait se passer pour les ponts du mois de mai avec la SNCF. Il y a des menaces de grève. Et pour l'instant, elles suffisent, ces menaces de grève, à obtenir un certain nombre d'avancées pour les syndicats.
Voilà, et tant mieux pour les salariés de les contrôleurs aériens et les salariés de la SNCF, évidemment. Mais faut-il craindre un embrasement avant les JO? Daniel Riolo.
En fait, ce sujet-là, ponctuellement, il est à prendre, selon moi, à mettre plutôt dans un contexte plus global. C'est que, finalement, ces JO sont une sorte de levier extraordinaire pour beaucoup de gens qui se disent il faut que tout le monde en profite. Il y a matière à profiter de l'événement. Ça a commencé par, j'imagine que vous avez tous entendu l'histoire de je vais louer mon appart pendant les JO parce que ça va je louer à 10 000 la nuit. Il y avait des tarifs à 20 000 la semaine.
Ça,
des folies. Je grossis le trait, mais j'imagine que tu as également entendu tous ceux qui disaient c'est 1000. Il y avait même des articles dans les journaux. 800 et 1000. Tu pouvais louer pour ceux qui étaient propriétaires à Paris, région parisienne. Il y avait des choses complètement folles. Les restaurateurs en attente avaient déjà préparé des cartes avec plus 10 euros sur chaque plat.
C'était le menu de la Saint-Valentin tous les jours, quoi.
Voilà. Bref, tout le monde voulait profiter. Les articles plus récents sur ce sujet montrent que finalement, ça va peut-être pas être la grande foire au profit.
65% des hôtels de réservation.
Mais les syndicats et les métiers sans substitution évidente, on se disent qu'ils peuvent en profiter. Tous ceux qui sont dans une sorte de monopole. La SNCF s'est bouclée. Eux, ils ont fait leur réforme des retraites, ils ont tout récupéré, là, ils sont petits oignons, ils sont peinards, donc peut-être qu'ils vont laisser les gens tranquilles maintenant. Mais tous les autres se disent, pourquoi pas en profiter? Parce que s'ils peuvent pas faire sans nous.
C'est assez humain, d'ailleurs.
S'ils peuvent pas faire sans nous, c'est peut-être le moment de mettre des énormes coups de pression pour parvenir à nos fins.
Lumière Laprès, est-ce que effectivement les avantages obtenus par la SNCF peuvent faire tache d'huile et qu'effectivement là avec ce qui vient de se passer pour la SNCF, pour les contrôleurs aériens, il y a une bonne partie des Français qui vont se dire attends, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je me mobiliserai pas si je peux obtenir plein de choses?
Alors moi je pars du principe qu'il faut se mobiliser pour obtenir des victoires collectives. C'est littéralement mon travail, donc je trouve ça très bien. Par contre, là où je pense qu'il faut remettre la focale au bon endroit, c'est que par exemple, ce préavis de grève pour l'ensemble de la fonction publique, il arrive juste après la levée du tabou du licenciement de la part du gouvernement dans la fonction publique, dont on sait, il faut quand même le rappeler, parce que...
Il faut quand même faire une faute très très grave pour être licencié de la fonction publique.
Oui, mais en fait, ces lois, ces règlements, ils sont déjà prévus. Donc, pourquoi est-ce que c'est ça qu'on a à nous raconter sur la fonction publique à l'heure où la fonction publique est, je le rappelle quand même, dans un état exsangue? L'hôpital public est en délabrement le plus total. Il manquait plus de 3000 profs devant les élèves à la rentrée 2023. Il y a 22% de démissions dans la RATP. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de croire que c'est la panacée, que c'est si merveilleux de travailler dans le service public. Sinon, il y aurait plus de candidats. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Plus personne ne veut être fonctionnaire.
Qui se plaint. Alors qu'il y a aussi des situations dans le privé qui sont difficiles.
Il y a surtout les gens dans le service public qui sont syndiqués. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est syndiquez-vous.
Syndiquez-vous. Mais tu sais très bien qu'à partir du moment où il y a de la concurrence, ça ne marche pas de la même façon. Donc, ils profitent de situations de monopole pour mettre des pressions. Et moi, je suis d'accord avec toi qu'on se mobilise pour avoir des avantages. J'ai pas de souci avec ça. Mais quand on parle des contrôleurs aériens et que d'un coup, ça met un coup de projecteur sur la profession, là, on s'aperçoit que ah oui, parce que déjà, comme ils ont ce monopole-là, on se rend compte qu'un jour sur deux, un mec peut venir et pas travailler, qu'il arrange ses horaires un petit... D'un coup, on s'aperçoit qu'ils ont déjà des avantages qui sont un peu colossaux par rapport aux salariés d'une autre boîte. Et à l'arrivée, qu'est-ce que ça peut donner? Une sorte de contre-effet. On va se dire, on va aller mettre le nez là-dedans, on va regarder d'un petit peu plus près, on va peut-être ouvrir à la concurrence.
Mais qu'est-ce qu'on va ouvrir? Moi, je te parle du reste.
Contrôleur aérien, le.
Mais moi, je te parle du reste.
Dans d'autres pays,
du système public. On va ouvrir à la concurrence éducation. On va ouvrir à la concurrence l'hôpital public. De toute manière, c'est déjà ce qu'on fait. Mais moi, c'est de ça dont je parle parce que je pense que c'est important de ne pas faire de parallèle entre les restaurateurs, les hôtels et les pompiers. Enfin, en fait, on n'est pas sur les mêmes.
C'est qu'en fait, quelque part, tu vas avoir plein de gens qui vont profiter des JO et d'autres qui vont devoir trier.
Oui, mais sauf qu'il y a des gens qui vont en profiter pour gagner encore plus d'argent et il y en a qui vont en profiter pour mettre la lumière sur la situation terrible dans laquelle ils exercent
ils vont
leur métier
pour gagner plus d'argent. C'est pas ça.
C'est même pas une question de gagner plus d'argent, mais quand on voit que là, c'est la totalité de la fonction publique qui annonce potentiellement se mettre en grève. Enfin, c'est pas juste la SNCF, c'est aussi les pompiers, c'est aussi la police, parce que, et je pense, et ils ont bien raison, c'est l'occasion pour beaucoup de se dire, en fait, et pardon pour le mot, mais on gueule depuis le début de ce gouvernement pour dire qu'on en peut plus. La crise Covid, elle a épuisé l'hôpital public. Le Covid, il a épuisé les
COVID,
profs.
Elle a été l'objet d'aides faramineuses, comme on a vu dans le
cas. Mais attends, moi, je te parle des soignants. Les soignants, ils sont sortis exsangues de cette
on mélange un petit peu.
Les Français sont d'accord pour dire que l'hôpital, les soignants méritent plus que la police. Le problème, c'est
les Français peut-être, mais pas le gouvernement. Je vous rappelle quand même les 10 milliards d'économie de Bruno Le Maire, parce que c'est aussi dans ce contexte-là.
Mais ça a eu un Ségur de la santé, c'est peut-être pas suffisant.
Les Français ne sont peut-être pas d'accord pour que la SNCF.
Ils vont devoir faire des milliards d'euros.
Ils vont devoir faire des retraites.
Ils vont devoir faire des milliards. Ils vont devoir faire des milliards d'euros d'économie et ça va se faire sur le dos de services publics.
Ils ont raison. Ils ont raison.
Mais bien sûr qu'ils ont raison.
Robert Sebag, je ne suis pas d'accord.
Non, moi, d'abord deux choses. L'inventaire à la Prévert, de Rémy, ça peut montrer qu'effectivement, il va se passer des choses au moment des Jeux Olympiques. Le pouvoir de nuisance paye, parce que on s'aperçoit que ce sont effectivement les gens qui pénalisent un petit peu, et je parle pas de l'image de la France et du succès des Jeux Olympiques. Moi, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'il y a certaines professions qui ont eu des primes tout à fait méritées. Parce que c'est vrai que les policiers, un certain nombre de personnes, pendant les vacances, leurs enfants mais ça, c'est ponctuel. Oui. Ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est par exemple ce qui se passe à la SNCF, où on profite, si vous voulez, des Jeux Olympiques, mais c'est pérenne. Les avantages qu'on a donnés à la SNCF, ils sont pérennes. C'est pas simplement pour les Olympiques. Donc, on a contourné la loi qui a été votée, on est pour, on est contre, on l'a contournée.
On a détruit les régimes spéciaux d'assez
impressionnant.
Moi, si au nom de quoi il y a régimes spéciaux? À un moment, il va falloir arrêter avec ça aussi.
Oui, non, mais c'est pas que les régimes spéciaux. Là,
Des acquis sociaux.
C'est la retraite. On a contourné la loi sur la retraite sur les deux ans, si tu veux.
Mais tant mieux, cette loi, elle est inique.
On parle de cessation d'activité. Écoutez, elle a été votée.
Oui, elle n'a pas été votée. Alors non, elle n'a pas été votée. Elle est passée par 49.3. Donc en fait, elle n'a pas été votée, cette loi, à laquelle plus de 80%
la Constitution française,
à laquelle l'égalité. Plus de 80% des Français.
Juste pour faire un contrepoint, on s'aperçoit que les Jeux Olympiques, l'État aussi joue à sa manière. Parce que quand on augmente le prix des tickets de métro à 4 euros et la RATP, ils en profitent, parce qu'on sait effectivement que tous les avantages qui vont être donnés à la SNCF, c'est une augmentation des places. Quelqu'un va le payer. Hein, on va le payer.
Je pense que c'est nous. Mais voilà, je vous dis ça nous, comme voilà. Ça, là, au doigt mouillé, mais à mon avis.
Et l'État.
Ça va être le contribuable. Oui, mais l'État, c'est le contribuable. Donc, ouais. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir sur ce sujet. On va commencer avec Laurent, qui nous appelle de Vichy et qui est contrôleur aérien. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Et Laurent, c'est. Oui. C'est champagne, là, ou pas?
C'est champagne. Non, on se réjouit jamais d'avoir à déposer un préavis de grève, malheureusement. Ce que peu de gens savent, c'est que les négociations en cours dans le cadre d'un protocole entre notre administration et les contrôleurs aériens, donc et l'aviation civile plus généralement, ont commencé en novembre 2022.
Ah oui, d'accord.
Et que voilà, ça fait donc plus de 16 mois qu'on est arrivé à un point de désaccord grand, puisque pour la première fois historiquement, on a eu des reculs sur des avancées qui avaient été obtenues dans le cadre de ces négociations au fil des mois.
D'accord.
Donc forcément, à un moment donné, effectivement, on n'a plus vraiment le choix. Un préavis a été déposé il y a plus de 3 semaines et je suis le premier à être désolé que un accord ait été trouvé 24 heures avant le mouvement effectif, ce qui effectivement va quand même engendrer des perturbations, d'autant plus que je peux pas parler au nom des deux autres syndicats, même si le syndicat qui vient de lever le préavis
syndicat majoritaire
et ultra majoritaire, voilà.
Mais Laurent, est-ce que quand même quelque part vous avez, allez, on va dire, profité de la situation entre guillemets pour justement faire valoir ce que vous estimez juste? Quelque part, vous êtes aussi servi un petit peu des JO, du pont de l'Ascension pour obtenir ce que vous vouliez.
Comme je le disais à l'instant, ces négociations, ces protocoles entre l'aviation civile et nous, ont lieu tous les 5 ans. Le dernier, nous, il a eu lieu il y a 8 ans. Bon, et les négociations ayant commencé en début 2022, on aurait été les premiers avis à ce qu'elles soient terminées premier semestre 2023. Hein. Donc ce glissement de calendrier, il n'est pas dû. C'est pas de notre fait. C'est un hasard du calendrier, on va dire, que ça tombe effectivement 2 mois avant. Voilà,
après, on a quand même eu l'impression que c'est au moment où vous avez évoqué les ponts du mois de mai, notamment le pont de l'Ascension, que tout d'un coup tout s'est débloqué. C'est-à-dire que là, bon, jeudi 25 avril, allez, ça gênait pas grand monde, mais alors dès qu'il y a eu pont de l'Ascension, paf, 3 heures après, bim, ça y est, réussite des négociations. Bah, comme quoi ça marche, quoi.
Oui, non, ben c'est sûr qu'on va pas se mentir qu'on a la chance d'être dans un secteur qui permet effectivement dans des négociations d'avoir plus de poids, ça c'est sûr, mais encore une fois, nous. Voilà, il faut différencier après il y a pareil beaucoup de dynamiques différentes entre les syndicats. Vous avez des syndicats progressistes et apolitiques qui sont pas contre la réforme, d'autres qui sont plus bloqués. Il faut aussi rappeler à vos auditeurs, pour les rassurer peut-être pour l'avenir, qu'il y a eu une modification du droit de grève pour les contrôleurs aériens récemment. D'ailleurs, c'est le premier préavis qui fonctionnait sous ce principe de déclaration préalable de 48 heures, et qui va faire qu'il y aura à l'avenir beaucoup moins de perturbations, puisque le service minimum ne sera pas mis en place systématiquement. Et j'ai pas les chiffres précis, mais une fois, le CETA qui représente plus de 60% des contrôleurs aériens doit être à l'origine, ces 15 dernières années, de tout juste 5% des dépôts de préavis.
Et ce qui est vrai, c'est que vous avez prévenu. Bien en amont, donc ça a permis aux gens quand même de pouvoir s'organiser. Et puis voilà, on rappelle que Emmanuel Macron n'est pas Ronald Reagan, parce que on rappelle que président des États-Unis en 81, en fait, il y avait eu une grève des contrôleurs aériens, et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit cette grève elle est illégale, il avait viré 11 000 contrôleurs aériens, il avait viré 11 000 personnes.
C'est illégal en France.
J'entends bien.
Ouais, c'est pas juste parce que c'est Emmanuel Macron est sympa, c'est pas juste illégal.
À nos auditeurs, cet épisode quand même, voilà, un président de la République qui avait viré 11 000 contrôleurs aériens. Merci beaucoup Laurent, en tout cas, d'avoir été avec nous. La levée du préavis de grève des contrôleurs aériens. On est également avec Eric qui nous appelle de Nîmes et qui est technicien en bureautique. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour.
Bonjour.
Eric, est-ce que vous êtes dans une profession où clairement vous pourriez faire grève et peser sur votre direction?
Si j'avais les moyens, moi je ferais pas grève, parce que ça me pose un problème d'égalité. Une fois, j'étais intervenu pour vous dire, moi, je sortirai de la Constitution le droit de faire grève, parce que c'est totalement inégalitaire. Les policiers, par exemple, n'ont pas le droit de faire grève, alors qu'eux auraient de bonnes raisons de le faire, donc première inégalité. Et puis, ceux qui font grève, c'est toujours les mêmes, ce sont ceux qui ont un fort pouvoir de nuisance. Quand c'est pas les transports, c'est l'énergie. Quand c'est pas l'énergie, c'est les transports. Alors, moi, mon idée, c'est quoi? Il faut trouver une autre solution. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas content de son salaire, il faut trouver un autre moyen de résoudre le problème que par la grève. Donc, l'idée, c'est qu'on sort de la Constitution le droit de faire grève et on remplace par autre chose. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que les salariés comme les patronats, ils sont jugés partis. Quand il y a un différend entre un salarié et un patron, c'est un juge indépendant qui doit résoudre le problème. Dans le privé, ça s'appelle les prud'hommes. Alors, peut-être qu'il faut créer une justice pour ça, c'est-à-dire que quand il y a un conflit entre des salariés et un patron, il faut passer par un juge indépendant qui va peser le pour et le contre. Par exemple, on va demander, un conducteur de train combien il gagne par mois. Il va comparer le salaire, son salaire avec un salaire dans le privé, par exemple, un transporteur de je ne sais quoi. Et il pourra dire, ah non, désolé, vous êtes mieux payé que dans le privé, donc ce que vous demandez, c'est pas autorisé.
Alors, à mon avis,
c'est le monde idéal.
Non, parce que ça sera compliqué. C'est pas la même façon de transporter. La mission de service public, elle revêt quand même des particularités.
Il faudra un nombre de juges.
Effectivement, déjà.
À la base, c'est à ça que sert le dialogue social. Normalement, la grève n'est pas censée être l'outil le plus utilisé. C'est d'ailleurs ce que nous racontait l'auditeur juste avant. Les négociations, elles sont engagées depuis 16 mois. Donc, en fait, c'est aussi parce qu'on est dans un pays où le dialogue social, il n'aboutit pas tant qu'on menace pas de faire grève. Mais normalement,
mais si les syndiqués,
je suis la première à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, syndiquez-vous. Il n'y a que comme ça qu'on gagne des trucs.
Mais tu oublies que si une grande majorité se syndiquait, peut-être que ça rendrait et ça remettrait à leur place les syndicats qui font la loi et qui représentent personne.
Mais tant mieux, un syndicat a vocation à être représentatif. Donc moi, je ne demande que ça, qu'il le soit représentatif.
Je suis d'accord, mais à partir du moment où on n'est pas convaincu qu'il représente une majorité des salariés, je trouve que le pouvoir qu'ils ont bien trop grand.
Merci Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous et de nous avoir soumis votre idée. On a plein de messages sur l'appli RMC. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement, Rémi ?
Alors, il y a de nombreux messages mais qui critiquent la méthode utilisée là par les syndicats. C'est la majorité des messages qui vont dans ce sens, comme Johan, qui nous dit déjà par la négociation, quand on prend ses clients en monnaie d'échange, c'est comme si je vous expliquais que j'allais bloquer tout votre système informatique pour pouvoir vous facturer davantage. Pour moi, ce ne sont pas des méthodes. Voilà ce qu'il dit.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, auteur de « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous tous.
Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Arnaud, on a vu que ça avait marché, les menaces de grève du côté de la SNCF et du côté des contrôleurs aériens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le mécontentement est assez fort en France pour qu'il y ait beaucoup d'autres secteurs qui fassent un peu la même chose ?
C'est difficile de le dire. Vous savez, c'est-à-dire la figure de la coagulation est une figure qui revient régulièrement dans les débats publics où on pense que il va y avoir un mouvement social d'ampleur où l'ensemble des syndicats et d'autres secteurs vont se mettre en marche et se mobiliser. Manifestement, depuis des années, il y a eu des fenêtres d'opportunité pour que ça se fasse et ça n'a jamais véritablement pris. Bon, la réalité, c'est qu'on a un contexte à la fois politique et social qui est difficile. On le voit bien. On voit bien quand même qu'on a des pouvoirs publics qui essayent de gérer au plus près les revendications auxquelles ils sont exposés. On l'a vu à la SNCF. On est en train de le voir aujourd'hui avec la DGAC, avec la grève des contrôleurs aériens. Du point de vue du politique, il s'agit certainement de colmater en tout cas les brèches pour éviter un embrasement social à quelques semaines des Jeux Olympiques, sachant que, évidemment, c'est, j'allais dire, une tradition presque dans les mobilisations sociales en France que les syndicats utilisent soit les moments de vacances ou les grands événements pour faire valoir leurs revendications. Mais ça dit quelque chose sur la société française. Le problème, c'est que, si vous voulez, on est dans une société où la culture du rapport de force reste, qu'on le veuille ou non, un outil politique de résolution des conflits. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays où, en effet, le compromis, le dialogue social sont des outils qui permettent d'éviter de prendre notamment ce qu'on appelle en otage les usagers et les populations. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est collective. Elle est bien évidemment aussi du côté des pouvoirs publics, comme elle est aussi peut-être du côté des syndicats, parce que c'est vrai que l'usage du droit de grève, qui est un droit constitutionnel et qu'il faut bien évidemment défendre, est parfois vécu par un nombre important de nos compatriotes comme étant, si ce n'est abusif, mais parfois utilisé de manière inappropriée. Donc c'est un vrai sujet. Le vrai problème, si vous voulez, aussi pour qu'un mouvement...
On est loin de la grève générale, quoi, ça voulait dire.
moi, je suis toujours très réservé. Il y a un mécontentement politique, social important dans le pays. Toutes les études d'opinion le montrent. Il y a une défiance vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est une réalité. Mais force est de constater qu'il n'y a pas eu une grande, très grande mobilisation sociale, même si sur les retraites, vous avez raison. Mais le pays n'a pas été bloqué, si vous voulez.
Non, c'est vrai.
Le pays n'a pas été bloqué. La mobilisation a duré longtemps. Elle a eu le soutien de l'opinion publique, indéniablement. Ouais. Ben, le gouvernement a quand même réussi à faire passer à coup de 49-3 sa réforme des retraites, mais le pays n'a pas été bloqué. Cette idée que le pays pourrait être un peu bloqué comme il l'a été en 1968 me paraît aujourd'hui vraisemblablement à regarder avec distance. Mais on n'est jamais à l'abri, vous savez, l'histoire ne se répète jamais de la même manière. Il faut toujours être très prudent dans les pronostics que l'on peut faire.
Eh bien écoutez, nous allons être prudents. Merci beaucoup. Merci Arnaud Benedetti. Et on va terminer avec Michel qui nous appelle de Martigues et qui est retraité. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour. Michel, est-ce que vous souhaitez un embrasement ou est-ce que vous le craignez?
Je le crains pas, je le souhaite.
Ah, d'accord. Oui. Mais pourquoi donc?
Moi, ma femme est infirmière. Ça fait des années qu'elle se balade avec un brassard. Je suis en grève, que tout le monde se fout de la gueule. De tous les soignants, de toute façon. Ils n'ont rien eu. En plus, on leur interdit de faire grève, puisque le service minimum en tant que grève, c'est deux infirmières et une aide-soignante.
Oui. C'est sûr que si tous les médecins et les infirmières étaient en grève, ça poserait un problème.
Avec une aide-soignante. Donc la grève est impossible. Donc oui, j'espère que les Français vont bouger ce coup-ci et puis descendre dans la rue. Maintenant, un B68, j'y crois pas, parce que les gens, je vois tout le monde est énervé autour de moi, mais beaucoup ont peur aussi des pertes avec le salaire. Oui. Moi, ma femme, elle est en fin de carrière. En plus, là, cette année, l'année dernière, elle s'est cassée la figure au mois de mars en rentrant du travail. Elle s'est fait deux fractures de la malléole et puis tibia péroné, arrachage des ligaments. Là, au mois de mai, elle devait avoir sa prime. On a dit, non, pas de prime, t'as été 4 mois en arrêt.
On lui a
supprimé la prime de fin d'année. Parce que...
Elle ne peut pas se permettre de perdre des jours de travail. Et c'est ça aussi qui bloque beaucoup de Français. On l'avait vu d'ailleurs pendant la réforme des retraites. Beaucoup disaient, moi malheureusement, quand je vais manifester, je perds 100 euros et je ne peux plus me permettre aujourd'hui avec ce contexte d'inflation. Merci beaucoup Michel, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et Rémi, on termine avec des messages, des résultats de notre sondage.
Allez, j'ai ce message de Daniel qui nous dit « Personne ne fait grève par plaisir. Quel observateur est réellement compétent pour juger des contraintes des agents ou des employés des entreprises ou des services? C'est trop facile de commenter succinctement une négociation bloquée. Il faut souhaiter que les avancées obtenues ruissellent sur tous. »
Alors le ruissellement, ça n'arrive jamais. Hein. Ça faut quand même le dire. C'est un peu l'arlésienne. Hein. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement avant les JO?
C'est le oui qui l'emporte pour les trois quarts de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux. Ils sont 74% à penser que oui.